Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Puisque nous sommes vendredi, nous vous proposons donc le forum de la presse. Alors, au menu du forum de la presse de ce vendredi, plusieurs événements qui ont donc marqué l'actualité, comme par exemple l'attaque aujourd'hui même d'un camp de l'aménagement avec un bilan lourd. Un autre camp de la mission onusienne aurait été la cible d'une attaque à Tombouctou il y a de cela maintenant une semaine. Il y a également il y a eu cette explosion d'une mine à quelques 300 km de Mopti qui a coûté la vie à 3 militaires maliens. C'était le 5 février dernier. L'insécurité est donc plus qu'une réalité dans la partie septentrionale du Mali. De cette situation et de la visite du patron de l'aménagement à Kidal où il a rencontré la CMA et la plateforme, nous allons nous entretenir avec trois journalistes, à commencer par Amadengue Sagara, il est du journal Solonin, Paul Nguessan du journal Le Prétoire et Boubacar Paintao du journal L'Indépendant, à la présentation Seydou Fomba.
Le Grand Dialogue.
Auditrice, auditeur, bienvenue. La situation sécuritaire au Mali, surtout dans sa partie septentrionale, reste préoccupante, comme l'atteste cette attaque perpétrée tôt ce matin contre un camp de l'aménagement à Kidal. Les bilans avancés est de 3 soldats guinéens tués et d'une trentaine de blessés. Décidément, les djihadistes, si ce sont eux, les auteurs de ces attaques, en veulent beaucoup à l'aménagement. Je demande maintenant l'impression de Boubacar Paintao de l'Indépendant par rapport à cette situation.
Bon, je remercie beaucoup le studio Tamani. Mais moi, mes impressions par rapport à la recrudescence de la violence, ça ne doit pas étonner parce que vu que l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger a été signé il y a plus d'un an et jusqu'à présent, nos autorités traînent les pas. Maintenant, il va de soi que ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix dans cette partie du Nord, maintenant, vont se manifester. Et puis, ce qui est marquant également, ça, c'est, je crois, c'est le rapprochement de la CEMA et le Gacha. Maintenant, les groupes qui se sentent exclus déjà, on commence à, c'est-à-dire que la paix commence à se dessiner. Maintenant, ceux qui se voient déjà orgés à partir de cette alliance, maintenant vont se manifester. Donc, on va assister, c'est-à-dire que à ces attaques-là, c'est-à-dire sporadiques jusqu'à ce que il y ait la paix définitive et que voilà. Maintenant, voilà ce que je veux dire par rapport à ça.
Amandegué Sagara du journal Lo Soloni, dites-nous, ces attaques qui se multiplient contre l'aménagement, cela était prévisible?
Oui, cela est prévisible, nous l'avons dit sur ce plateau même à plusieurs reprises. Ça montre une fois la fragilité et sécuritaire dans notre pays. Nous avons dit, et j'aborderai un peu dans le même sens, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de cantonnement, quand on n'ira pas vers le DDR, ces genres d'actions vont se multiplier. Et je crois que beaucoup restent encore, hein. Il faut encore frapper. Ce n'est pas, je suis pas un oiseau de mauvais augure, mais tout laisse à croire qu'on ne peut pas sécuriser le Nord quand on ne sait pas le mouvement des groupes armés. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa loi, chacun est libre d'aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas ce genre de...
Monsieur Sagara, vous dites qu'il faut cantonner, même avec le cantonnement, est-ce que la situation va changer? Parce qu'en fait, les hommes auxquels on attribue ces attaques, c'est les djihadistes, et je pense que c'est pas les djihadistes qui vont être cantonnés.
Oui, justement, avec le cantonnement, je crois que c'est plus facile de contrôler la situation. Là, au moins, on sait déjà des groupes armés qui sévissent dans le septentrion du pays. Ils sont sous contrôle. Et maintenant, c'est plus facile de contrôler des groupes isolés, comme vous l'avez dit, des djihadistes. Aussi longtemps qu'il y aura beaucoup de groupes, ce sera difficile même de contrôler ces djihadistes-là. Alors que s'il y a le cantonnement, on peut mettre l'attention sur ces groupes isolés qui peuvent frapper à tout moment.
Écoutons l'analyse de Paul Nguessan du journal Le Prétoire.
D'accord, merci bien pour l'invitation. Moi, je rebondis avec sur la même lancée que le confrère. Mais ce que je voulais dire, il faut savoir, lorsque on laisse des djihadistes ou des islamistes occupaient le septentrion malien pendant un bon moment. Ils ont eu à avoir une base. Ils ont eu à maîtriser tout le septentrion. Donc aujourd'hui, même malgré que Bakam soit là-bas, c'est difficile, c'est-à-dire un de temps de faire les caches d'âme. Ils maîtrisent mieux. Ils ont créé, au fait, ils ont eu un état fictif durant toute l'occupation des régions du Nord. Aujourd'hui, ce n'est pas la présence de la MINUSMA ni de la Barkham qui va faire que l'objectif l'atteigne, puisque l'opération Serval a été cette lancée pour, on a pu reconquérir certains villes, Tombouctou, Gao. On n'est pas arrivé à Kidal, malheureusement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces djihadistes-là, est-ce qu'ils ont été tous neutralisés? Ces terroristes, est-ce qu'ils ont été tous neutralisés? Donc, c'est eux maintenant qui reviennent à l'action, parce que pour eux, c'est quoi? C'est comme s'ils ont voulu créer un état, on a voulu les chasser. Donc, ils vont riposter. Donc, on doit s'attendre à ça. Et c'est pas étonnant que on voit tout ce qui arrive, surtout, aujourd'hui, qu'on s'en parle à la MINUSMA, parce qu'on trouve que c'est une force d'occupation qui est venue, quelque part, mettre fin à l'état fictif.
Boubacar Paintao de l'Indépendant demande à réagir.
Voilà. Donc, moi, je voulais juste dire que, le début de l'accord, c'est-à-dire de la mise en œuvre de l'accord, c'est d'abord le cantonnement. Parce que, c'est-à-dire, le cantonnement, ça va nous permettre de faire la différence, c'est-à-dire, qui doit porter les armes dans cette partie du pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va cantonner, c'est-à-dire ces groupes armés, à partir de cet instant, maintenant, on va définir qui doit porter les armes et qui ne doit pas porter les armes. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas, c'est-à-dire que ce mécanisme, tant qu'on n'a pas ce mécanisme-là, maintenant, chacun, le berger aura son arme, bon, c'est-à-dire que le pêcheur aura son arme, etc., etc. Donc, on ne peut pas dire à personne, donc, maintenant, il faut le cantonnement, parce que c'est ce cantonnement qui va nous permettre de déterminer qui doit prendre les armes et qui doit détenir les armes dans cette partie.
En tout cas, la situation est assez grave, puisqu'on apprend qu'un hélicoptère de la mission onusienne a même été attaqué au sol. La riposte aura duré 2 heures de temps. En tout cas, l'attaque a eu lieu au lendemain de la visite du représentant de la MINUSMA qui était venu échanger avec les partis sur les problèmes de la ville, notamment la sécurité. Qu'est-ce que ça vous dit, Amang Dengue Sagara?
Oui, là, je vais rebondir dans le sens de mon confrère, Paitao, qui a dit, il y a certains aujourd'hui qui n'aimeraient pas voir la mise en œuvre de l'accord. Donc, ils feront tout, n'est-ce pas, pour empêcher cette situation de stabilité. Et quand le premier responsable de l'AMINUSMA se rend à Kidal, c'est pour aussi s'enquérir des réalités du terrain, c'est aussi apporter un soutien moral aux troupes qui sont là-bas. Donc, il décide le moment opportun pour frapper, pour dire que nous aussi, nous sommes là et nous n'allons pas baisser la garde.
Paul Nguessa.
Oui, justement, je suis d'avis avec le confrère, mais il faudra savoir que, c'est vrai, une chose est qu'il faut cantonner les gens, mais une chose, il faut savoir, aujourd'hui, est-ce que même quand on prend les États, le sud de l'autorité malienne est interpellé, parce qu'on laisse seulement Kidal, on prend seulement les gens de Tombouctou, Gao, voici des gens qui ont été libérés, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a encore des localités où il n'y a même pas la présence des forces de défense et de sécurité. Donc, ce qui donne libre champ à ces djihadistes-là, d'opérer tranquillement et de repartir comme si de rien n'était. Donc, avant d'arriver au cantonnement, il faudra d'abord qu'on engage la réflexion. Est-ce qu'il n'est pas temps que les localités libérées, qui sont sous contrôle de l'administration territoriale malienne, n'est peut-être pas temps vraiment qu'on puisse envoyer, déployer nos forces de sécurité et de défense et équiper pour qu'ils puissent quand même rassurer d'abord cette population-là avant de s'attaquer à Kidal, qui est le nœud même du problème aujourd'hui que nous vivons au Mali. Moi, je pense qu'il faut d'abord penser à ça d'abord.
Boubacar Paintao.
Bon, ce que moi, je peux dire par rapport aux visites du chef de la MINUSMA, je crois qu'il est temps pour... Je ne joue pas au pyromane, hein. Il est temps à la MINUSMA vraiment de dégager sa position. Qu'est-ce qu'elle veut réellement? Parce que, bon, pour le malien lambda, bon, c'est une force, ils sont venus, bon, voilà, donc, c'est-à-dire, ils trouvent de l'argent, ils sont venus pour chercher.
Mais dites là, il y a l'éternel.
Maintenant, moi, je pense que, c'est-à-dire, cette visite aux yeux de ceux-là qui veulent assez que, c'est-à-dire que la terreur règne sur cette partie, maintenant cette visite n'a aucun impact, aucune influence, donc ça leur dit peu de choses, ça ne les engage pas.
Alors vous voulez certainement faire allusion au problème des mandats de cette force.
Mandat, effectivement, parce que on nous dit pas réellement, le malin lambda ne sait pas exactement, c'est-à-dire à quoi sert cette force-là, sans vous mentir. Le malien lambda, quand on peut faire un sondage tout de suite, maintenant on demande 10 maliens, maintenant les 10 vont vous dire que nous on ne sait pas, c'est des gens, ils sont venus pour chercher de l'argent, point. Voilà.
Et cette question à présent, est-ce qu'il y a eu une réaction de la part de la CMA et de la plateforme après cette attaque de Kidal ce matin? Amagiri Sagara.
Bon, la réaction...
Amadingue,
oui. Je n'ai pas en tout cas entendu de réaction de leur part, et je ne vois pas trop ce qu'ils vont dire. Voilà, parce que même si on essaie aujourd'hui de légitimer, en tout cas, la CMA et certains groupes, et tout compte fait, à mesure, ils restent des terroristes. Et là, moi, leur avis compte peu.
Ah oui, là, je suis d'accord avec lui, je rebondis, parce que quand on dit CMA, c'est qui? CMA, c'est un regroupement qui se rend autour de MNLA. Le MNLA même qui était le nœud de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on chante de TOF, on dit une coordination moins de l'Azawad. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont occupé pendant plus de 10 mois les régions du Nord, qui ont violé, qui ont tué, qui ont agressé l'État malien, qui reviennent aujourd'hui sous haute manteau pour dire non, aujourd'hui, on va à la paix, mais on va à la paix comment? Est-ce que ces gens-là, ils ont réellement l'idéologie qu'ils avaient en tête? C'est-à-dire que, avoir un État, est-ce qu'ils ont renoncé à cela? C'est vrai qu'aujourd'hui, on va faire les plateformes, on va en Algérie, on discute, on essaie de faire revenir ceux qu'on peut revenir, sauf sous prétexte que non, c'est les fils du Mali. Mais est-ce que c'est pas les Maliens qui ont, est-ce que c'est pas les fils du Mali qui ont attaqué le Mali? Est-ce que ceux-là, réellement, dans leur tête, sont-ils prêts même à partir à la paix? Parce que ça m'étonne que, au moment où le Gatia rentre, où le chef de la MINUSMA va effectuer une tournée pour rassurer d'abord la population au niveau de Septentrion, il rassurait d'abord les forces de la MINUSMA, et c'est en ce moment même qu'on vient attaquer bizarrement le camp de la MINUSMA. Et on attaque le camp de la MINUSMA, ni la CEMA ne bronche. Ce qui veut dire quelque part, il y a Anguille Souroche.
Alors, je crois savoir quand même qu'il y a la plateforme qui a condamné l'attaque. Apparemment, ça va être le même cas pour la CEMA. Dites-nous maintenant, vous, Boubacar Paintao de l'Indépendant, un autre événement grave, cette fois-ci, on vient de parler de la MINUSMA, on va parler maintenant de soldats maliens. 3 soldats des FAMA ont trouvé la mort dans l'explosion d'une mine le 5 février à quelques 300 kilomètres de Mopti. Alors, quel commentaire de votre part?
Bon, je m'incline devant la mémoire des victimes, mais c'est presque la même lecture que je fais. Hein. Moi, je... À un moment donné de mon analyse, je ne fais pas la différence entre les soldats de la MINUSMA et, c'est-à-dire que les FAMA.
Donc, parce qu'à
un moment, je vois, à un moment donné, ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait la paix voient ces deux-là presque du même œil. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça, hein. Pas par rapport à autre chose. Maintenant, c'est-à-dire pour ce groupe-là, ben, que tu sois de la MINUSMA, que tu sois, c'est-à-dire des FAMA, maintenant, tu es un élément indésirable dans cette partie. Je crois que c'est cette lecture-là que je fais. Maintenant, bon, dans la partie, par exemple, Ombori, Mopti, autre, parce que cette situation, il faut, moi, je suis de la raison. Moi, je suis de la raison. Je sais comment est-ce que, c'est-à-dire que ces gens-là, leur philosophie par rapport, à la religion musulmane. C'est-à-dire que, dès que moi j'ai vu l'histoire de Amadou Koufa, j'ai eu peur parce que je suis de la zone. J'ai dit, tant que si on ne prend garde, c'est-à-dire que cette histoire va prendre une autre tournure. Parce que c'est des gens, moi j'ai rencontré des populations, si tu ne pries pas, ils ne mangent même pas avec toi. Maintenant imaginez ces populations, si on parvient à les... C'est un foyer de recrutement. Donc il faut dès que maintenant prendre des mesures drastiques par rapport à cette zone-là. C'est plus pire que le Nord profond, hein. Parce que c'est des gens, quelqu'un qui n'accepte pas de manger avec quelqu'un s'il ne prie pas, maintenant, il est facilement manipulable. On peut le recruter facilement. Donc, c'est cette analyse-là que moi je fais de la chose. Mais on est en train de le prendre à la légère. Donc, maintenant, les mines et autres, je crois que cette partie du pays a tout le temps, c'est-à-dire que ces incidents-là, c'est-à-dire que maintenant, que ça nous intéresse à chaque fois qu'il y a un événement, mais c'est-à-dire que tous les regards se tournent vers là-bas. Sinon, c'est des choses qui arrivent couramment dans cette zone-là.
Amadege Sagara.
Oui, effectivement, c'est des choses qui arrivent couramment. Et je crois que ça fait partie aussi de la situation du pays. Je reviens toujours à la sécurité. Tout ça montre à quel point notre sécurité est fragile. Et je m'incline effectivement à la mémoire de ces femmes qui sont comme des moutons qu'on envoie à la boucherie. Ils sont exposés et ils seront toujours exposés aussi longtemps que le Mali ne sera pas stable, aussi longtemps que cette tension de confusion, cette tension de désordre va régner. Nos militaires seront toujours exposés. Donc il va vraiment falloir doubler d'efforts. Et comme il a dit, il faut aussi prendre attache avec les populations. parler avec eux. Ils peuvent aussi contribuer en cela. Et les mines, ça veut dire que ça a été placé à un moment donné. Voilà, il va falloir doubler des vigilances, aussi coopérer avec la population, les faire comprendre que cette stabilité, c'est tout le monde qui gagne, et vraiment essayer de sécuriser l'ensemble du territoire national. Il a dit, hein, c'est quand un bruit se passe au nord ou quelque part, qu'on se rend compte de la réalité, alors que les faits sont là, les faits sont réels, et le danger est tout près, le danger est à la porte.
Paul Nguessa.
Oui, j'aborde dans la même voie que les confrères. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que ça ne suffit pas de dire qu'on envoie des soldats. Nos soldats qui sont là-bas, comme on dit, il faut qu'ils soient équipés. Aujourd'hui, la donne a changé. Hein. Ce n'est pas le fait de dire qu'on déclenche un détachement, on fait un contingent de l'armée malienne qui vont à Mobutu sécuriser. Non, la donne a changé. Aujourd'hui, le problème des mines, est-ce que nos soldats étaient-ils prêts à cela? Aujourd'hui, il faut qu'on forme les gens à plus qu'ils puissent détecter réellement tous ces engins qui sont ces zones minées-là. On ne le fait pas, ou bien si on le fait, peut-être aller à la DGT, c'est quand justement, quand il y a un événement, on essaie de prendre à communiquer. Non, mais les gens qui meurent, c'est des enfants des gens, les populations sont en danger, les enfants, récemment, je suis dans une presse où un enfant à Gao allait prendre une mine, pensait que c'était un jouet qui s'est explosé. Donc il y a un problème à faire, et comme l'a dit tout de suite le confrère de Solony, il faut vraiment associer vraiment la population à la chose, à la sécurité. Ça ne suffit pas d'aller faire un tour, non. Il faut les associer, il faut les convaincre, il faut les faire savoir qu'ils sont partie prenante de la sécurité, pour qu'ils puissent vraiment collaborer avec nos forces de défense et de sécurité, pour que ceux-ci vraiment puissent vraiment alléger, amoindrir un temps, soit un peu de la souffrance qu'ils ont. C'est ce que je veux dire.
Si Joe Tamani, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous abordons le second volet de cette émission. Nous avons donc évoqué dans le premier volet la situation sécuritaire dans le septentrion malien. À présent, nous allons nous intéresser à une visite. Le président allemand Joachim Gauck a entrepris ce vendredi même une visite ici au Mali. Au cours de cette visite, il y aura des échanges avec les autorités maliennes. Et au cours de ces échanges, il sera question de paix et de sécurité. C'est un événement bien important, non? Je pose la question à vous, Boubacar Paintao.
Bon, la visite du président allemand, moi je vois que c'est bon. Moi, de mon analyse, c'est un non-événement. Hein.
Et pourquoi?
Parce que bon, venir annoncer que l'Allemagne va encore envoyer des soldats, mais pourquoi faire? C'est ça la question. C'est cette question que je me pose. Sinon, s'il s'agit de questions de soldats, je crois qu'on en a suffisamment. Maintenant, le problème, on le sait, il est connu, c'est d'équiper les soldats qui sont déjà ici. Maintenant, ils vont venir avec leurs blindés, ils vont venir avec leurs armes, ils vont passer tout leur temps à pavaner. C'est la même chose. Si c'est pour réellement discuter des modalités d'envoi, c'est-à-dire comment, c'est-à-dire déployer, c'est-à-dire un effectif supplémentaire, moi, je suppose que, je pense vraiment que c'est un non-événement parce que, ça ne va rien régler la chose. Ça va plutôt contribuer à déplacer le problème. Parce qu'on va penser que il y a tout cet effectif au Mali. Et pourtant, malgré tout, l'insécurité persiste alors que, c'est-à-dire qu'on ne résout pas en fait le problème, on le déplace.
Maintenant, nous donnons la parole à vous, Amandengue Sagara du journal Solony.
Oui, c'est une visite de plus. Moi, quand je vois tous ces chefs d'État européens qui circulent ici, ben, c'est une visite de plus. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau. Et c'est un événement parce que logiquement, c'est le président allemand qui vient en République du Mali. Voilà. On pense qu'il est supérieur à notre président Ibrahim Boubacar Keïta. Sinon, je ne vois pas qu'est-ce qu'il va amener de plus. Il y a eu trop de discours. Il y a eu la théorie. Il faut maintenant la pratique. Moi, je pense que c'est ça qu'on a besoin. Les propositions, en tout cas des promesses, on en a assez. Il faut maintenant passer à l'acte, cantonner en tout cas les différents groupes, donner les moyens à l'État malien, donner la souveraineté à l'État malien. C'est très important parce que, quoi qu'on dise, nous ne sommes pas souverains. On se blague ici. Donc, il va falloir vraiment donner à l'État malien toute sa souveraineté et laisser l'État malien agir et l'appuyer si nécessaire. Sinon, des visites des chefs d'État, je ne vois pas en quoi ça pourra faire avancer. On a eu beaucoup de visites, on a eu beaucoup de promesses, on a eu beaucoup de rencontres autour de cette question, mais jusqu'ici, rien ne va. Et c'est ce qui nous amène encore dans cette situation sécuritaire, c'est ce qui nous amène encore dans ces attentats qui se répètent chaque fois.
Et Paul Guessan de l'Indépendant.
Oui, je suis d'accord avec le collègue. S'il veut nous aider, moi je pense que le président allemand est là, s'il veut nous aider, ils n'ont qu'à aller, comme c'est eux qui forment un club de décideurs au niveau des institutions, la communauté internationale, ils n'ont qu'à nous aider pour que vraiment on puisse aider le Mali. D'abord, les promesses faites pour pouvoir aller au processus de DDR, de démobilisation, désarmement, réinsertion, qui vont plaider auprès des bailleurs qui nous envoient des sous, qui nous ont promis, pour que nous puissions vraiment commencer la phase réelle, que nous puissions avancer. S'ils viennent qu'ils nous aident, s'ils veulent nous aider, qu'ils nous envoient des équipements que l'armée malienne a besoin. Mais si c'est venu juste pour dire, ouais, une visite de courtoisie, comme l'a dit Patao, non, on doit 650 soldats venir renforcer le rang de la MINUSMA, mais on a déjà combien sur le terrain ici? C'est pas ce que nous voulons. Nous voulons aller au concret parce que les gens sont fatigués. Et aujourd'hui, imaginez-vous un peu, tous les jours que Dieu fait, on nous pardonne 2 soldats, 3 soldats. Est-ce qu'on pense demain que cela même peut pousser même cette armée-là, cette grande miette-là, à pouvoir se révolter? Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop, les gars disent, on peut plus aller à l'abattoir. Et si jamais l'idée naissait dans la tête des gens. Donc, dès maintenant, il faut anticiper pour trouver des moyens. Donc, ils nous aident vraiment pour que nous puissions sortir vraiment de cette crise-là qui est en train de entrer dans, ancrer vraiment dans des mœurs et qui devient vraiment un danger pour le pays. Je pense qu'il est temps vraiment qu'on puisse mettre fin à ça. Donc, la visite du président allemand, pour moi, comme ils ont dit, c'est un non-événement pour nous, en tout cas. C'est un non-événement.
Mm-hmm. Alors, monsieur Pintao du journal L'Indépendant, je pense quand même que quand le président allemand arrive au Mali, ça ne peut pas être un non-événement dans la mesure, quand même, ces deux pays ont beaucoup de choses à se dire, dans la mesure où c'est l'ITM qui forme les soldats, et je crois que cette structure est dirigée par un Allemand. Est-ce que vous ne pensez pas que les autorités maliennes et allemandes ont des choses sérieuses à se dire?
Bon, l'arbre ne doit pas cacher la forêt, hein. L'UTM, il forme le soldat en quoi? Droit de l'homme, il ne faut pas tuer, si vous tuez.
Mais pas seulement.
Vous serez, non, mais c'est ça. J'ai eu l'occasion de discuter avec les soldats. C'est un peu ça. Si vous tuez les gens, on va vous traduire devant la CPI, etc., etc. Ça, c'est, moi, je pense que nous, on n'est pas là. Hein. Nous, on a un problème sécuritaire. Maintenant, ce problème sécuritaire, il faut prendre les mesures nécessaires par rapport à ça. Maintenant, s'il faut des soldats qui ont été formés, 10 ans, 15 ans après, on vient les reprendre encore pour dire qu'on va les former. Mais on va les former en quoi? Il faut qu'à un moment donné, qu'on s'arrête et qu'on fait le bilan de ce qui s'est passé. C'est pas ça. C'est les formations qu'on est en train de les donner, ils n'en ont pas besoin. C'est juste les former en droit de l'homme. C'est ça le fondement. Sinon, en haut, bon, c'est-à-dire que les exercices de footing et autres là. Non, ça, c'est la partie visible. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est les former. C'est-à-dire que les inculquer les notions de droit de l'homme. C'est ce que je vois.
Amadé Sagara, ce n'est pas un peu trop sévère ce que dit monsieur Pintao, ce jeu de la formation de nos soldats?
Pas trop sévère, mais je veux préciser quelque chose. Je ne dis pas que, voilà, la visite du président n'est pas une bonne chose. J'ai dit qu'il faut pas en faire un grand événement. La preuve, notre président, il fait beaucoup de voyages où il va. Ok, je ne pense pas qu'on en fait un problème chez eux là-bas. Mais ce qui est sûr, comme il l'a dit, ce n'est pas la formation aujourd'hui de nos militaires. Nos militaires sont formés. Moi, je vois ça comment? C'est comme quelqu'un est dans un puits, vous tentez de le sauver, vous avez un escalier, vous le laissez et c'est un morceau de fil que vous le tendez. Mais vous faites semblant d'aider. Moi, je pense que toutes ces visites, effectivement, l'armée malienne, si c'est la formation, ils sont formés. Si c'est le moral est au top. Mais seulement, c'est l'équipement qui les manque. C'est les moyens logistiques qui les manquent. S'ils peuvent aider en ce sens-là, c'est une bonne chose. Mais venez discuter, et j'appuie ce qu'il dit. Généralement, quand ils viennent, leur formation, c'est quoi? C'est le droit des hommes, c'est le droit de l'homme. Il ne faut pas tuer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui même, voilà, l'armée souvent a tellement ça dans la tête que ça n'aide pas. Je pense qu'il faut plutôt, ce qu'on a besoin, ce que le peuple malien a besoin aujourd'hui, c'est sécuriser le pays. Et ça ne peut pas aller sans le désarmement, les cantonnements, et la souveraineté de l'État malien.
Alors, vous avez parlé d'équipement. Est-ce que vous ne pensez pas que Maliens et Allemands peuvent justement échanger à ce sujet?
Oui, ils peuvent le faire.
Alors, mais d'où l'importance de cette visite, dans tous les cas?
Oui. La visite, on ne dit pas que la visite n'a pas son sens, mais je dis que je me tiens, ça n'est pas un événement qu'il faut prendre comme quelque chose d'extraordinaire. Mm-hmm. C'est un chef d'État qui rend visite à un autre chef d'État. Ils peuvent se parler de tout. Ils peuvent même ne pas parler des armements comment parler. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est une visite comme les autres visites. Pas, je ne vois pas de portée particulière à cette visite.
Nous allons à présent écouter l'avis de Paul Nguessa.
Oui, justement, l'Allemagne avec le terme Akolikoro, moi je pense que la mise à niveau des forces de défense et de sécurité, pour moi même, je pense que c'est même une injure à l'armée malienne, hein, faire une mise à niveau d'une formation militaire. Est-ce à dire que nos soldats ne sont pas à la hauteur? Ne sont-ils pas des soldats acquéris comme il se doit? Je pense que non. Comme aujourd'hui, le problème réel de l'armée, quand on les demande, on n'est pas équipé. Nous avons besoin de logistique. Et puis le chef d'État allemand, je pense que son pouvoir est très limité par rapport à la chancelière Merkel, qui a encore plus de pouvoir de décision. Donc, effectivement, c'est vrai, il peut être un couloir auprès de la Merkel. Oui. Mais c'est pas ça que nous avons besoin. Plus nous sommes en train de traîner, plus ces djihadistes qui sont éparpillés dans le septentrion malien, qui ont bien les caches d'armes qu'ils maîtrisent bien, ils se reconstituent doucement, et surtout qu'aujourd'hui, la Libye qui est à quelque part à la porte du Mali, avec l'État islamique qui se compris le quartier général à Sitte, la menace est grande. Il faut vraiment dépasser certaines réflexions. Il faut aller dans l'urgence. Et dans l'urgence, c'est d'aider le Mali, l'armée malienne, à avoir l'équipement qu'il faut. C'est d'aider le Mali à pouvoir faire face à la menace. Parce que cette menace-là, c'est pas seulement le Mali, hein, c'est pas c'est toute la sous-région, mais c'est aujourd'hui, c'est au Mali, parce que c'est le Mali avec l'occupation pendant les 10 mois qu'on a eu tous ces déploiements de Mijao qui sont confondus aujourd'hui, ces Mijao qui chantent du Tov, qui deviennent Sema, etc. Donc le problème est là, le problème est réel. Il faut qu'on avance. Il faut que l'accord d'Alger, on puisse vraiment commencer à l'application pour qu'on sache réellement à qui on a affaire. Et en ce moment, cette communauté-là va nous aider pour que nous puissions vraiment neutraliser les dernières poches et que le Mali retrouve sa stabilité d'antan.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio
Tamani. Dans le forum de la presse de ce vendredi, nous avons parlé de la situation sécuritaire dans le septentrion. Nous venons d'évoquer la visite du président allemand au Mali. Nous allons à présent complètement changer de cap puisque c'est de l'excision que nous allons en parler. Alors, vous le savez, le Mali vient de célébrer la journée mondiale contre la pratique. Le combat continue-t-il toujours? La question à vous, Boubacar Pentaou.
Bon, sur la question de vraiment de l'excision, je crois que moi j'ai une lecture très très différente. Bon, c'est-à-dire que à ce courant généraliste, parce que au lieu que, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tout nous dicter de l'extérieur. Moi je suis un peu hostile à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui chaque peuple a sa culture, chaque peuple a sa vision des choses. Hein. Nous notre vision des choses, il faudrait qu'à un moment donné les autres aussi la respecte. Aujourd'hui, il vient nous dire qu'il faut arrêter avec l'excision. Maintenant, pourquoi on ne dit pas qu'il faut arrêter avec la circoncision? Parce que il faut pas juste voir l'aspect excision, mais il faut aller au-delà. C'est juste une question de géopolitique. Parce qu'on ne touche pas, c'est-à-dire à la circoncision, parce qu'en Israël, on pratique la circoncision. Si jamais on se bute à ce problème, maintenant on va se buter à l'Israël. Maintenant on vient nous voir, maintenant il faut arrêter avec l'excision. Ben, moi je pense que si les conséquences qu'on a citées, moi je pense que les conséquences, si on peut les maîtriser, pourquoi ne pas en faire de façon clinique? Première proposition. Deuxième proposition. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par les sensibilisations. Ne montre pas seulement les côtés négatifs parce que nous avons un peuple, c'est-à-dire nous sommes un peuple qui vient de loin. On a toujours pratiqué l'excision. Même le fait de boire de l'eau, il y a des conséquences. Maintenant, on peut les minimiser. Bon, aujourd'hui, il faut arrêter avec l'excision, mais en contrepartie, bon, donner la chance avec l'homosexualité. Alors que nous, dans notre culture, l'Afrique noire de façon générale, nous on est aussi là ça. Mais on veut nous imposer ça parce qu'on dit que c'est un droit. Si c'est un droit de se marier entre deux hommes, moi je pense que c'est un droit pour un parent d'exciser sa fille.
S'agissant donc de l'excision, ce qui vous dérange le plus, c'est que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est imposé de par l'Occident, c'est ça?
C'est imposé. Mm-hmm. Mais nous, nos gouvernements qui ne vont même pas à payer les fonctionnaires ne vont pas injecter de l'argent pour mener ces campagnes afin qu'on arrête ça. Mais c'est ça. La conclusion est vite tirée.
Mandigui Sagara.
Bon, je fais une autre lecture avec vos confrères. Et c'est vrai, l'excision, aujourd'hui, je vois et je pense que c'est un mal qu'il faut vraiment aider à éradiquer. C'est vrai, on ne sait pas quand même bien quand on impose, mais je ne vois pas ça sous l'angle d'imposition. Mais je pense que il faut aussi tirer ce qui est bon des autres. Mm-hmm. Même chez nous, en Afrique ici, l'exclusion n'est pas pratiquée chez tous les peuples. Hein. Il y a des peuples qui ne pratiquent pas l'exclusion. Mais il a été montré que, vous voyez, ça fait beaucoup de mal que de bien. Et effectivement, les conséquences sont là, réelles. Et si on peut minimiser, il faut le faire. Où je serais d'accord avec lui, c'est de sensibiliser la population, faire comprendre à la population les méfaits, n'est-ce pas, de l'excision. Moi, personnellement, ça va peut-être l'étonner, mais je suis en contact avec des dames. Beaucoup de fois, il m'arrive souvent de discuter avec des femmes. Ça fait plus de 4 ans que je fais cela. Il y a des femmes qui me disent, on l'a toujours fait chez nous. Nos grands-parents ont été excisés. Pourquoi nous, on ne sera pas excisés? Je dis, mais non. Il y a des conséquences. Le monde change, le monde avance. Et il y a de ces choses, peut-être, qui ne se faisaient pas il y a 100 ans. Qu'on voit aujourd'hui. Il y a de ces maladies qui n'ont pas existé il y a 100 ans, qui existent aujourd'hui. Donc, il faut aussi voir le côté sanitaire de la chose. Ça a quand même beaucoup de conséquences. Beaucoup de conséquences. J'ai suivi quand même certaines ONG. J'ai vu certaines images qui sont vraiment choquantes. Et si on peut aujourd'hui sensibiliser, si on peut arrêter cela, c'est bien. Il ne faut pas confondre aussi avec l'excision. L'excision aujourd'hui, ça ne crée pas de polémique, hein. C'est partout. De façon, je ne sais pas, en tout cas à ma connaissance, je n'ai pas vu un peuple qui dit, bon, chez nous, on n'excise pas les hommes. Et ce n'est pas Israël seulement, je pense que ça c'est plutôt mondial.
Apparemment, il s'agit de deux pratiques qui n'ont pas les mêmes conséquences.
C'est-à-dire que c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Sinon, en réalité, c'est la même chose. Quand on parle de mutilation, c'est des mutilations aussi. Maintenant, pourquoi on s'attaque
la
à ça?
Différence, c'est que jusqu'ici, je n'ai pas vu de voix
qui se lève. Parce que c'est une question de géopolitique.
Panitao, je crois que le problème, okay, c'est au niveau des conséquences. Voilà. Les conséquences,
non, c'est une question de géopolitique. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dénoncer la circoncision parce que l'Israël le pratique.
Avant que je ne donne la parole à l'autre, Paul Longuessa, je crois quand même savoir que les médecins, tout le monde nous parle de certains aspects positifs de la circoncision, surtout sur le plan hygiénique. Donc je pense que s'il y a problème, le problème c'est au niveau des conséquences des deux pratiques.
C'est ce qu'on veut nous faire comprendre.
Donc nous allons maintenant donner la parole à Paul Longuessa.
Pourquoi ne pas le faire de façon clinique?
Justement, le problème d'excision, c'est un flux, je suppose, c'est vrai. Il y a ses avantages. Il faut voir aussi, moi, je pense que il y a ses avantages et il y a ses inconvénients. Aujourd'hui, quand vous faites un sondage, c'est vrai que ces gens qui sont habitués là, moi, je suis même la dernière fois de la journée, on a un reportage sur la Guinée, où c'est comme ça fait partie même de mèche. Exciser une femme, c'est normal. Aujourd'hui, on trouve que c'est vrai, avec la pratique, le fait que c'est pas clinique, il y a des dangers. Et effectivement, je suis d'accord, il y a des dangers, parce que des fois, il y a des images qu'on voyait, c'est vraiment atroce. Et puis, aujourd'hui, avec des fois une lame pour plusieurs femmes, etc. Bon, il y a vraiment. Mais ce qui moi, je voulais revenir là-dessus, ce sont ces ONG là qui sont dans ce domaine. Parce que moi, j'ai eu la chance l'année dernière de faire une enquête, mais je pense qu'ils font de ça un business. Et moi, c'est là qui me révolte. Parce que moi, j'ai vu une dame qui est active, qui est une militante, qui se bat, qui fait le tour du Mali pour dire « n'excisez pas aux femmes ». Mais moi, bizarrement, une fois que je causais, elle m'a dit « non, moi, j'ai excisé mes filles ». Donc, ça dit qu'il ne faut pas ne prendre.
Mais quelle explication donne-t-elle à cela?
Mais justement, je pense que là, elle est en train de faire un double jeu. Parce que là, elle a besoin, elle fait de sa business. Parce qu'elle, elle a une ONG, il faut des sous, des partenaires pour pouvoir aller sensibiliser. Mais dans le fond, c'est qu'elle n'a pas de cœur avec vraiment ce qu'elle fait. Et là, moi, ça qui me révolte. Et je pense qu'il faudrait que ces partenaires-là qui financent l'incision-là puissent vraiment ouvrir les yeux réellement d'où vont l'argent. Sinon, je suis d'accord qu'aujourd'hui, avec les conséquences, vraiment, on peut sensibiliser la population. Il faut sensibiliser la population pour leur faire comprendre qu'il y a des dangers, il y a des risques sur l'incision. mais il faudrait pas que des gens font de ça un fonds de commerce. Et là, particulièrement, moi, c'est ça qui est mon coup de cœur. Je pense qu'il faut arrêter de jouer avec la conscience humaine.
Je crois que nous allons à présent aborder le sport, précisément le football, avec les aigles locaux qui sont donc revenus du Rwanda deuxième. Ils étaient donc en finale, mais finalement cette finale ne s'est pas bien passée. Alors, comment est-ce que vous appréciez le parcours des aigles locaux au Rwanda? Je pose la question à vous, Boubacar Païnta.
Moi, je les félicite. Vraiment, je les félicite parce que ils ont dépassé la performance que je m'étais fixé.
Donc, il n'était pas évident qu'ils se retrouvent en finale.
C'était pas évident, mais un pays où il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat. Maintenant, quand on parle des locaux, il s'agit du championnat à l'intérieur du pays. Maintenant, bon, aujourd'hui, les Congolais ont pris la coupe. Bon, ça c'est évident. Avec le tout puissant Mazembe, etc., etc. Je crois que, c'est-à-dire que les aigles, ils sont à féliciter. Voilà ce que je veux dire.
Amandegué Sagara.
Oui, je félicite nos aigles. Mais juste ce que je veux dire, c'est que ça, c'est à l'endroit du peuple malien même. En tout cas, j'ai remarqué qu'on aime trop se contenter du peu qu'on a. Quand on est troisième, ça se fête ici. Quand on est deuxième, ça se fête. Aussi longtemps qu'on va continuer à se contenter, en tout cas des secondes places, on va toujours rester là. Il faut montrer aussi à nos joueurs que la première place nous intéresse. Nous aimons aussi danser quand nous sommes premiers. Vous voyez, quand ils sont venus, ils ont été accueillis. Je ne suis pas contraint. Mais chaque fois, quand on sort pour accueillir des deuxièmes alors qu'il y a des premiers, on sort pour accueillir des troisièmes. Et je pense que la personne faisait, bon, le peu que je fais, apparemment, on trouve satisfaction et je vais continuer dans ce sens. Bon, une manière de farcer, mais dire aussi à nos aigles d'essayer d'aller loin, de pas toujours se contenter des secondes places, mais aussi de chercher à percer. Je sais que si le Mali s'était surpassé, ils allaient aller plus loin. Ils ont sous-estimé l'adversaire, l'équipe en face, alors que le tout-puissant Mazembe, c'est une équipe qui s'est fait respecter dans cette compétition et continuera à se faire respecter. Il faut jamais sous-estimer celui qu'on a en face.
Paul Nguessan de l'Indépendant.
Oui, du prétoire. J'aborde dans le même sens. Effectivement, chapeau aux aigles locaux qui ont fait un travail formidable. Mais ce qu'on peut retenir, et là je suis d'accord avec les confrères, quand on regarde, on parle en partie du TP Mazembe, c'est une formation à la base. Aujourd'hui, il est temps aussi qu'au Mali, nous commençons aussi cette formation à la base. Et on tire chapeau, moi je passe par le chapeau, c'est pas une publicité, mais je tire chapeau à l'Académie Guillaume, qui a fait un travail extraordinaire et remarquable. Je pense qu'on doit s'inspirer du cas. Aujourd'hui, quand on prend toute la source des gens, aujourd'hui, vous voyez que les centres de formation en football, ça pousse comme des petits champions. Il est temps aussi que le Mali, on commence à partir sur cette base-là. Il ne faut pas penser à deux ou trois personnes, non. Parce qu'aujourd'hui, si on veut être premier, il faut à la base. Moi, j'ai été surpris de voir les jeunes jouer. Quand on regarde même le schéma, c'était tellement beau à voir. Et on sent quand même qu'il y a un niveau qui est en train, le niveau du football africain est en train de partir de l'avant. Pourquoi? Ça coûte des centres de formation. Il est temps qu'on s'en engage la réflexion plutôt que de faire des querelles de clochers, des minarets au niveau de notre fédération, qui fait que malheureusement, on n'arrive pas, peut-être à cause de ça, peut-être qu'on n'arrive pas à avoir toujours la première place et on est toujours en se contentant de deuxième place et troisième place. Donc, il est temps qu'on a dépassé la fédération même, ne donne pas l'exemple aux joueurs. Et c'est dommage de le dire, c'est dommage. Mais vraiment, chapeau aux aigles qui ont vraiment fait une prestation vraiment encourageante et très brillante. Chapeau à eux tous et on espère que prochainement, il reviendra à la coupe pour nous faire plaisir.
Les aigles locaux qui ont fait de leur mieux, l'encadrement technique aussi, dites-nous, Boubacar Païnta.
Bon, ce que moi, je voudrais juste rebondir sur les propos de mon confrère. Bon, dire que minimiser l'équipe du Congo dans cette compétition, c'est méconnaître un peu le football. Parce qu'il s'agit des locaux. Maintenant, aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe, voilà, aujourd'hui est imbattable. Presque sur le continent. Voilà,
et c'est
maintenant, que... on ne peut pas dire que c'est à ce niveau. À ce niveau qu'on va minimiser.
Voilà, mais c'est une équipe comme déjà comme vous, le Congo. Vous partez déjà perdant. Parce que vous voyez que celui qui est en face de vous est imbattable.
Non, le
je
football.
Je suis désolé, mais là, vous partez déjà perdant.
Je dis bien le football.
J'ai voulu dire
le
que.
Le football, c'est pas un jeu de hasard, hein. Non. C'est pas un jeu de hasard, hein.
Non, pensez que ce match était perdu d'avance.
Pas perdu d'avance. On a fait ce qu'on pouvait faire.
Alors, dites-nous, monsieur Penta, vous pensez que l'adversaire était nettement au-dessus?
Très au-dessus. Dans un pays où le championnat ne se joue même pas, nous on parvient à se classer deuxième, c'est-à-dire sur le continent.
Alors, éviter le contentement.
Mais on peut pas
vous
demander.
Vous contentez trop du peu.
Mais les jeunes qui sont partis n'avaient même pas de parce que C'est-à-dire qu'il s'agit de...
Je vous comprends, mais c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. Ne dites pas que ces jeunes-là n'étaient pas en mesure de remporter la victoire face au Congo. Ne le dites pas. Oui.
Je pense que nous allons passer à autre chose, puisqu'il nous reste vraiment très peu de temps. Nous allons dire un mot d'un sujet qui préoccupe énormément tous les hommes de médias de la place aujourd'hui. Voilà plus d'une semaine que Birama Touré, journaliste au Sphinx, a disparu. Ni parents, ni collègues n'ont aucune nouvelle de lui. Et le monde des médias maliens commence à se mobiliser pour le rechercher. Il faut certainement l'encourager, non? Donc, commençons par vous, Paul Nguessa.
Oui, Birama Touré, c'est vraiment inquiétant, parce que plus d'une semaine, on ne sait pas où le confrère est. Mais moi, je pense qu'il est temps quand même qu'on engage la réflexion au niveau de la presse. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Lorsqu'il y a un problème au niveau de la presse, j'ai remarqué, personnellement, ça c'est mon sentiment, j'ai remarqué que quand il y a, c'est comme s'il y a, il y a deux sortes de catégories de journalistes au Mali, quoi. Il y a certaines personnes, dès que c'est eux, je pense qu'il y a une mobilisation totale du coup. Mais quand c'est d'autres, on prend du temps, on essaie de faire des commentaires dans les grains. Non. Journaliste, c'est journaliste. Quand il y a un problème, il faut en réagir. Plus de deux semaines, personne ne parle. À part, j'ai vu le syndicat la dernière fois qui est sorti pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, quelques journaux qui ont mis la photo, mais non. Mais les responsables de presse, les autres associations-là, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Il est temps qu'on puisse vraiment se pencher sur cette coopération-là, qui est certes intéressante, mais qui avait ses conséquences-là. Où est-ce qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bizarre, mais il faut vraiment garder la réflexion pour qu'on puisse trouver le confrère, quoi.
Boubacar Painter de l'Indépendant.
Bon, moi, je ne peux que prier pour qu'au moins on puisse le retrouver en bonne santé en entier. Mais au-delà, la lecture que moi je vais faire de cela, je suis pas trop content du traitement que la presse malienne donne à cela. Mm-hmm. Parce que on a tendance à reléguer cela comme, c'est-à-dire au second plan, sur nos troisième plan. Parce que c'est pas, parce que on est tout le temps les scandales des autres, c'est-à-dire quand ça va passer les autres, on est les premiers, ça fait la une et puis voilà, ça domine l'actualité. Mais on a l'impression que bon, comme sur le chien à boire, la caravane passe et puis voilà, Brahma est porté disparu, point. Voilà. Et puis on n'en parle pas. Alors que c'est un journaliste, c'est un de nos confrères. Le traitement qu'on donne, c'est-à-dire que à cela, vraiment, je déplore cela.
Amadegue Sagara du journal Solonia.
Effectivement, là j'aborde dans le même sens que lui. J'espère que cette fois-ci on ne va pas s'étirailler là-dessus. Je suis parfaitement d'accord, le traitement. Et on ne peut que souhaiter que le confrère revienne très vite parmi nous. Et demander encore davantage à la presse de se mobiliser, de faire son mieux. On va continuer à nous battre jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles rassurantes, en tout cas sur le confrère. Aussi monter, en tout cas, la garde. Et c'est très important que la presse prenne l'affaire au sérieux et que cela puisse faire les unes et témoigner notre solidarité vis-à-vis du confrère.
Nous prions donc Dieu pour qu'on retrouve le confrère, pour qu'on entende de bonnes nouvelles à son sujet dans les jours à venir. Ceci met donc un terme à votre émission, le forum de la presse de ce vendredi 12 février 2016. Nous avions trois invités, Amadegue Sagara du journal Solonie, Paul Nguessa du journal Le Prétoire et Boubacar Paintao de l'Indépendant. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba, réalisation Ousmane Diadié Touré, mise en onde Salim Diouara, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. On se retrouve la semaine prochaine.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Haloud Mouni.
Chienne Beri, Sigi.